Voilà. Donc nous commençons. Donc nous en sommes au chapitre 4, page 21. Donc je rappelle que ce cours est disponible sur les pages de téléchargement CNFRA du REF Union. Donc si vous voulez récupérer ce fichier au format PDF, le site du REF Union, donc c'est REF Union. Ah, les coupures reviennent. Donc a priori c'est le 144 qui fout la merde. C'est le 144 qui fout la merde, et pourtant les deux câbles sont assez éloignés. Les deux câbles sont assez éloignés. Alors je vais les éloigner encore un peu plus. Je vais faire un petit blanc sur 144 F6 GPX opérant F6 KGL. Bon, apparemment c'est bon. Non, pas de coupure chez moi. Ok, donc bon, pour ceux qui veulent la page de téléchargement, il y a F0EGJ qui a mis la page pour tous de téléchargement. Bon. Donc voilà pour récupérer ce cours. Et donc il est au format PDF et normalement ça doit se lire sans problème. C'est un assez gros fichier, donc voilà. Bon, bah écoutez, pas de coupure, donc c'est impeccable. On va pouvoir avancer. Donc ce chapitre, on va pas faire tout le chapitre ce soir, on va s'arrêter un peu avant. On va parler des conditions d'exploitation et des indicatifs d'appel. Enfin, plus exactement ce soir, des conditions d'exploitation, les indicatifs d'appel, ça sera la semaine prochaine. Donc, le premier... alors, ce sont à chaque fois... ça fait partie, ça, d'une décision ART sur les conditions d'exploitation. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont dites dans cet arrêté de l'ART. Et donc on les reprend un petit peu dans un ordre à peu près logique, puisque c'est un petit peu dans le désordre dans ce texte. Donc c'est là, enfin c'est exactement même, c'est laquelle, la 97, non c'est la 001364, voilà. La décision de l'ART, c'est la 001364, qui donc précise les conditions d'utilisation des installations de radioamateurs. Donc, c'est un des textes qui avait été modifié suite à la... il y a eu un décret en Conseil d'État qui a annulé la décision de 97, et c'est cette décision qui est reprise quasiment mot pour mot, si ce n'est qu'on ne parle plus de sanctions. Voilà. Donc on en parlera après de ce problème. Donc le premier chapitre concerne le carnet de trafic. Alors ça, le carnet de trafic, c'est quelque chose qui est obligatoire et dont tout le monde se sert et qui... Alors, dont tout le monde se sert, qui est obligatoire, mais qui ne concerne que les textes français, parce que le carnet de trafic, au niveau des textes internationaux, il est juste dit dans les textes européens de savoir ce que c'est qu'un carnet de trafic et quels sont les éléments à y porter. Alors, le texte français est beaucoup plus clair, puisqu'il donne les indications qui sont obligatoires. Donc premièrement, quand on fait un contact, on est obligé de l'inscrire sur son carnet de trafic. Hein, donc le texte de l'ART, c'est le titulaire d'une autorisation d'émettre est tenu de consigner dans un journal de trafic ou carnet de trafic. Alors c'est écrit journal de trafic, mais tout le monde appelle ça carnet de trafic. À page. Alors ce qui est important, c'est la suite. À page numérotée. Donc en fait, ça veut dire qu'on ne doit pas pouvoir remplacer des pages ou tout au moins les supprimer. Donc c'est pour ça qu'elles sont numérotées. Elles sont non détachables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser un classeur à anneaux. Donc on doit utiliser ce carnet de trafic et dedans on met les renseignements relatifs à l'activité de la station, c'est-à-dire date et heure de communication. On ne parle pas, avant on parlait de heure de début, heure de fin. Maintenant on parle de date et d'heure. Alors on supposera que c'est l'heure de début du contact, mais à la limite n'importe quelle heure à l'intérieur du début ou de la fin doit pouvoir faire l'affaire. Cette heure, elle est soit donnée en heure légale ou en heure UTC. C'est au choix de l'opérateur, mais évidemment, il faut toujours utiliser la même heure. Je vous conseille d'utiliser l'heure UTC, au moins pour les après au niveau de la gestion des QSL, c'est souvent plus simple. On doit noter évidemment l'indicatif du correspondant. Alors, c'est le correspondant ou le relais. C'est-à-dire que lorsqu'on émet via un relais, en toute théorie, c'est le nom du relais que l'on met sur le carnet de trafic. Et éventuellement, le nom du correspondant quand il y a eu un correspondant. La fréquence d'émission, et on parle bien de la fréquence d'émission et pas la fréquence de réception. Ça, c'est important au niveau des relais, puisque le relais, on l'écoute sur une fréquence et on émet sur une autre fréquence. Donc là, on parle bien de la fréquence d'émission. Et cinquième plus exactement, hein, heure, date, heure, indicatif, fréquence et classe d'émission. Quand on parle de classe d'émission, c'est la classe d'émission comme on a vu dans le chapitre 1, c'est-à-dire si on émet en FM, c'est F3E. Et on marque pas juste FM, il faut marquer F3E. Alors éventuellement, on peut aussi utiliser, indiquer le lieu d'émission lorsqu'on est en portable ou en mobile. Et les modifications apportées à la station, c'est toujours possible aussi. Alors ce carnet de trafic, il doit être constamment tenu à jour, c'est-à-dire que vous devez toujours l'avoir à côté de vous et le tenir à jour à la main. Il est présenté à toute réquisition des fonctionnaires chargés du contrôle. À ma connaissance, j'en ai pas encore vu, mais pourquoi pas. Et ce qui est important, c'est qu'il doit être conservé pendant un an à compter de la dernière inscription. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, vous pouvez le jeter. Le journal de trafic peut être informatisé et ou adapté pour les handicapés et les non-voyants. Alors auparavant, sur ce journal de trafic informatisé, il y avait tout un laïus qui était assez long et difficilement on pouvait difficilement le mettre en application. Alors là, ils sont en train de faire un bordel derrière moi. Après les micro-coupures, voici le lancer de valise. Ils sont pas sympas quand même, hein. Pour une fois qu'ils bossent. Ça y est, apparemment on va avoir un peu la paix là. Ils ont foutu un bordel maximum. Donc voilà, concernant le carnet de trafic, il y a beaucoup de questions quand même à l'examen sur ce carnet de trafic. Les questions classiques, c'est on vous propose des tas de renseignements à inscrire sur le carnet de trafic et il y en a un qui n'est pas bon. En règle générale, c'est le prénom ou la localisation du correspondant. Hein, c'est les trucs classiques, ça. Donc, je rappelle les cinq indications obligatoires. Date de communication, heure de communication, indicatif, fréquence d'émission, classe d'émission. Tout le reste n'est pas obligatoire. Et le journal de trafic se conserve pendant un an. Ça, c'est aussi une des questions assez classiques. Voilà, je vais laisser un petit blanc sur 144, F6, GPX opérant F6, KGL, qui repasse à l'écoute et qui reprendra si personne ne se signale. Voilà, après le petit blanc d'usage, on continue. F6, GPX opérant F6, KGL. Et nous passons maintenant au chapitre 2, qui sont les cas particuliers d'exploitation. Alors, on a en fait quatre types d'exploitation particulière. Premièrement, la station fixe. Une station fixe, je dirais que c'est la station normale. La station fixe, elle est utilisée depuis l'adresse communiquée à l'ARCEP dans son... Alors, en cas d'utilisation d'un carnet de trafic informatisé, faut-il continuer à remplir le carnet papier ? Non, il n'y a pas besoin de continuer à remplir le carnet papier, puisque la trace informatique suffit. Donc, en toute théorie... alors, l'ancien texte disait que la seule, le seul carnet de trafic qui faisait foi, c'était la sortie informatique du carnet de trafic. C'était en fait la trace papier du carnet de trafic, ce qui était une aberration. Et maintenant, c'est supprimé. Il est juste dit qu'il est conservé pendant un an. Donc, le carnet de trafic doit être à jour, présenté à toutes les réquisitions, etc., etc. Évidemment, la seule chose qu'on peut dire, c'est que là, il peut pas être à page numérotée, non détachable, etc. Donc, c'est la seule, c'est le seul bémol qu'on peut donner. Mais en tout état de cause, le carnet de trafic, s'il est tenu informatiquement, il y a aucune raison de devoir l'imprimer ou de le tenir à jour manuellement. On revient les cas particuliers d'exploitation. Donc la station fixe, normalement on utilise l'indicatif sans rien d'autre, puisque on est censé émettre depuis sa résidence principale, tout au moins à l'adresse indiquée par l'ARCEP. Alors là, l'ARCEP plus exactement, c'est le CGRP, pour être plus précis. C'est-à-dire le centre de gestion des réseaux. Alors c'est CGR d'ailleurs, puisqu'avant ça s'appelait CGRP, les réseaux privés, maintenant c'est les réseaux tout court. Et donc le CGR, c'est eux qui gèrent les adresses des radioamateurs. Et donc pour le compte d'ailleurs pour quel compte ? Normalement c'est pour le ministre des communications électroniques. C'est pas pour l'ARCEP. Et le changement de domicile doit être effectué auprès du CGR. Et ce changement de domicile doit être effectué dans les 3 mois. Et donc, à cette adresse, le titulaire de l'autorisation d'émettre, puisqu'on ne peut plus parler de licence, hein, je vous signale quand même au passage, on ne peut pas parler d'une licence qui n'existe plus. Donc pour éviter cet abus de langage, on va parler d'autorisation d'émettre. Et cette autorisation d'émettre utilise son indicatif. Donc on utilise son indicatif d'appel sans suffixe ni préfixe. Hein? Donc typiquement, quand je dis ici F6GPX opérant F6KGL, je suis moi-même en... J'opère une station de Radio Club. Et la station de Radio Club, elle est domiciliée ici à Neuilly-sur-Marne, donc je suis bien. Oui, alors on me dit qui devrait revenir concernant la licence. Ça fait très longtemps qu'on entend parler. Il y a eu une réunion assez récemment et j'ai cru comprendre que ça reviendrait, mais tant que j'ai pas mon bout de papier, moi je n'y crois pas. Moi, je ne crois que ce que je vois. Deuxième cas d'exploitation, c'est la station transportable et non pas portable. Hein? Le terme précis, c'est transportable. Donc, une station transportable est construite de manière à être déplacée, mais ne peut pas fonctionner pendant son transport. Donc c'est typiquement une station que l'on branche sur le secteur, par exemple. Et donc là, vous êtes obligé d'être sur un point fixe pour pouvoir trafiquer. La station transportable ne peut pas fonctionner pendant son transport. Alors, autre question, peut-on, si nous ne sommes pas radioamateurs, émettre dans un radioclub avec un radioamateur, et si oui, comment utiliser l'indicatif? Seul le radioamateur a le droit d'utiliser un indicatif et donc de parler au micro. La France, alors il y a un terme bien précis dont je me souviens plus, qui peut être utilisé dans d'autres pays, mais pas en France. Exemple typique, lors des jamborées sur les ondes, on a des scouts, donc qui ne sont pas radioamateurs, qui peuvent correspondre avec d'autres scouts, et en fait, ils n'ont pas le droit, eux, de prendre le micro. Donc en fait, la question est posée par l'intermédiaire du radioamateur qui est, lui, qui a l'autorisation d'émettre. Donc normalement, même dans le cadre d'un radioclub, et même avec un radioamateur à côté de lui, quelqu'un de non indicativé n'a pas le droit d'utiliser l'indicatif ni du radioamateur ni du radioclub. La station transportable est dans la valise, oui, mais bon, pour autant, la valise, elle peut être aussi en mobile si elle a une batterie, par exemple. Donc voilà, donc transportable, c'est bien, c'est une station qui est fixe, hein. Donc on ne peut pas l'utiliser pendant son transport. Et dans ce cas-là, donc le titulaire de l'autorisation d'émettre utilise son propre indicatif suivi du signe, du suffixe P, enfin exactement, slash P quand on est en morse. Hein, le slash, c'est après l'indicatif pour bien séparer l'indicatif du P. Et ça, c'est valable pour... c'est une norme internationale. Hein, ce n'est pas que pour nos petits Français. Et donc, le P, c'est pour dire portable. Portable en anglais. Et donc, quand on est en téléphonie, eh bien, on donne son indicatif et on met et on dit portable à la fin. On dit pas... La barre de fraction n'a pas lieu d'être. La barre de fraction, elle n'est passée qu'en morse. En téléphonie, on rajoute portable à la fin. Donc, par exemple, lorsque je suis, moi, je sais pas moi, en vacances, je dirais F6, alors Foxtrot 6, Golf, Papa, X-Ray, portable. Je ne dis pas barre de fraction portable. Ou barre de fraction portable 92 par exemple. Ça, c'est pas non plus. Alors même si c'est sympa pour les autres pour expliquer là où on est, ça n'est pas réglementaire, je dirais. Troisième cas, c'est la station mobile. Donc là, c'est pareil, quasiment pareil que portable, sauf que en plus, la station peut fonctionner pendant les déplacements. C'est typiquement la station qui est dans un véhicule. Donc dans un véhicule, alors quand ce véhicule est une voiture, une automobile, il faut que le propriétaire du véhicule soit aussi celui qui a l'autorisation d'émettre. Et si c'est pas le cas, il faut que le propriétaire du véhicule donne l'autorisation écrite. Voilà, il y a peu de questions là-dessus, hein, je vous rassure, parce que ça c'est une question tordue quand même. Alors la station important, la station ne peut être montée sur un aéronef, donc tout ce qui n'est pas terrestre, hein, on avait vu quand on avait parlé des fréquences, qu'on différenciait les fréquences satellites des fréquences terrestres, et bien en fait au niveau de l'UIT il y a aussi des fréquences des stations qui sont dans l'espace, non pas dans l'espace comme les satellites, mais qui sont dans les avions. Alors qu'est-ce qu'on me dit que oui, pour parler de réglementation, il est dommage d'entendre des radioamateurs annoncer des lettres comme G pour Guatemala par exemple, et nous simples écouteurs, nous avons de mauvais exemples. Bah oui, c'est effectivement, mais c'est les qualités de trafic qui malheureusement se dégradent. On est là pour faire, on va essayer de remettre un petit peu les choses en place, mais c'est pas toujours évident, hein. Et c'est vrai que moi-même, le premier, j'utilise pour mon indicatif Guatemala parce que le golf, ça passe malheureusement très mal. Alors que Guatemala est beaucoup plus est beaucoup plus percutant, en particulier quand on a des stations lointaines ou qui, puisque j'ai un anglais assez médiocre et avec un accent aussi assez médiocre, donc des fois l'indicatif passe mieux avec Guatemala, malheureusement. Et lorsque je suis en France, j'utilise plutôt aussi Xylophone que X-Ray. X-Ray, voilà, Guatemala, Pérou, Xylophone, ouais. Mais moi, j'utilise plutôt Xylophone parce que X-Ray, je reste encore un petit peu franco-français. Et je préfère utiliser des mots français que des mots d'origine anglaise. Enfin, quoique X-Ray, c'est pas vraiment anglais non plus. Donc voilà. Donc, mais une fois qu'on a l'examen en poche, on peut trafiquer comme on veut, du moment qu'on reste dans des règles tout à fait correctes, à mon sens. Donc, pour le mobile, quand on est, alors, interdiction d'émettre sur un aéronef, donc tout ce qui vole, donc un avion, un ballon atmosphérique, etc. Ouais, les rayons X sont dangereux, c'est ça. Aéronef, ballon atmosphérique. Alors, et dans ce cas-là, nous utilisons notre indicatif suivi en morse de slash M, donc d'abord le slash puis après M, et en téléphonie on va utiliser mobile en anglais. Voilà. Donc un radio amateur émettant en téléphonie et se promenant à pied ou en vélo. Donc là, quand on est à pied, évidemment, on a une station mobile. Normalement, elle est sur accumulateur. Donc mobile, c'est pas spécialement dans une automobile. Hein. Mobile, c'est une station qui marche sur accu. Donc on peut être à pied, à vélo éventuellement, pourquoi pas. Et évidemment en voiture comme on veut. Et donc dans ce cas-là, on utilise son indicatif d'appel, donc Foxtrot 5 Alpha Bravo Charlie mobile. Et les anglophones vont dire mobile. Donc cette procédure est aussi internationale. On va faire un petit blanc sur 144 pour ne pas occuper la fréquence trop longtemps, comme il est dit dans le chapitre précédent, F6GPX opérant F6KGL. Quoi? Ah là, il est là. Donc F6GPX pour F6KGL qui continue. Et on continue avec la station maintenant maritime mobile. Alors les maritimes mobiles. Donc ils utilisent le suffixe en morse slash MM, donc deux fois M, ou en phonie, on rajoute maritime mobile. Et donc ça, ce sont des stations qui sont situées sur des bateaux et qui sont lorsque l'on est hors des eaux territoriales. Alors les eaux territoriales, je rappelle, c'est de mémoire, c'est doit être dans les 10 000 milles nautiques, je crois, je suis pas sûr. Les marins sont plus doués que moi sur cette question. En tout état de cause, un bateau à l'anneau dans un port, on va utiliser un indicatif avec mobile, puisque a priori, c'est plus que transportable. Ça doit être du style mobile. À moins que, comme le bateau est au port, on utilise le secteur et que donc on utilise une station portable. Ça serait quand même assez étonnant. J'utiliserais plutôt le terme mobile. C'est lorsqu'on est en dehors des eaux territoriales, donc lorsqu'on est... dans une zone où on n'est pas justement, où on n'est plus en France, où on n'est pas dans un autre pays, où on doit utiliser ce suffixe. Et par contre, pour utiliser ce suffixe, il faut avoir une autorisation du commandant de bord qui mentionne donc le nom du bateau et le port d'attache, et joindre cette, de, cette autorisation on devrait demander donc une autorisation spéciale à demander à l'administration. Je ne sais pas sous quelle forme ça se fait, puisque j'ai regardé sur le site de la NFR, il y a quelques formulaires, mais celui-là n'existe pas. Donc je ne sais pas dans quelle, sous quelle forme ça se passe. Mais bon, je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés, je pense qu'il suffit de téléphoner à la NFR. Alors, un bateau sur un estuaire aura quel indicatif? Alors, dans un estuaire, a priori, il est en France. L'estuaire, il n'est pas dans les eaux internationales. Donc, il est mobile. Mobile fluvial ne veut rien dire. Mobile fluvial n'est pas un cas d'exploitation réglementaire. C'est mobile. C'est soit maritime mobile ou c'est mobile. Mais dans un estuaire, je dirais que c'est pas dans les eaux internationales. Donc, sauf à ce que ce soit un estuaire qui soit énorme, et j'en connais pas. si c'est dans un estuaire, donc on est en France, et donc on n'est pas dans les eaux internationales. Hein. Les eaux internationales, de mémoire, mais ça, il y a peut-être quelqu'un qui, un voileux ou quelqu'un qui connaît bien tout ce qui est maritime qui pourra confirmer, je crois que c'est 10 000. 10 000, ça fait quand même 18 km. Hein. Donc 18 km des côtes, à mon avis. Donc sur une péniche, on est en mobile, exactement. Sur une péniche, on est bien en mobile. D'ailleurs, je le précise plus loin. Une station mobile fluviale est utilisée sur un bateau dans les eaux territoriales est assimilée à une station mobile terrestre. Donc il faut utiliser le suffixe M. C'est pour ça que je disais que mobile fluvial n'est pas un terme approprié. C'est plus pour se donner une idée de la chose. Mais en tout état de cause, il n'y a aucun suffixe qui vous dira, par exemple, MF, mobile fluvial. Hein, ça c'est clair, vous êtes en mobile point barre. Donc ça, on a vu les 4 cas d'exploitation. On va laisser un petit blanc sur 144 F6 GPX opérant F6 KGL pour si quelqu'un veut signaler sa présence. Ok, bon, on continue. F6 GPX opérant F6 KGL. Donc nous avons vu donc les 4 cas de particuliers d'exploitation. Et on va voir maintenant les un cas particulier qui est la station répétitrice. La station répétitrice a son propre indicatif. Donc, il y a des demandes d'indicatif qui peuvent être faites au niveau de la NFR. Et donc, les stations répétitrices, bon, c'est les relais en clair, hein, en français, dans le texte. Donc, c'est une station répétitrice, c'est une balise de fréquence fonctionnant obligatoirement en classe A1, F1 et F2A. Alors, ça peut être, donc la station répétitrice, ça peut être une balise. Alors, je me suis peut-être... la phrase est trop longue, en fait. Hein. Donc, la station répétitrice peut être soit une balise. Donc, une balise, ça émet, en fait, des informations. Alors, la mer territoriale est la partie de la mer côtière sur laquelle s'étend la souveraineté d'un État côtier. Ça, je sens bien... merci Eric d'avoir été chercher sur internet toutes ces informations là. Sa largeur maximum est fixée à 12 000 par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, sous réserve d'accord avec les États voisins dont les côtes sont distantes d'au moins 24 000. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a deux États, et typiquement c'est le par exemple la Manche est partagée entre la France et l'Angleterre, tout au moins au niveau de Calais. Il n'y a pas d'eau internationale à cet endroit-là, puisqu'on passe de la France à l'Angleterre directement. Donc voilà ce que l'on peut dire. Donc là, c'est pas 10 000, c'est 12 000. C'est 12 000, donc ça fait dans les 20-21 km. Voilà, 21 km des côtes, vous êtes dans les zones, la zone des eaux internationales. Donc, je vois que les Internet fonctionne très bien chez certains. Et c'est bien d'être réactif comme ça. C'est pas pour autant que je vais rajouter ça dans le cours, je vous rassure, parce que bon, au bout d'un moment, ça donne trop d'informations et il y a pas lieu. Et j'ai jamais vu de questions sur la définition des eaux territoriales encore. Hein, donc on va se calmer. Faut pas en rajouter trop. Donc les stations répétitrices, ce sont soit des balises, donc en fait elles émettent la plupart du temps c'est des balises pour se donner une idée de la propagation. Et en plus de leurs indicatifs et de leurs locateurs, généralement elles donnent la température, pression atmosphérique, enfin quelques données météorologiques locales. Ces balises fonctionnent obligatoirement en mode A1A, F1A et F2A. Alors quand on regarde ça, on se dit pourquoi A, pourquoi un A à la fin, puisque on doit être normalement, ce sont des machines, donc normalement, à mon sens, le texte, c'est le texte. J'ai repris le texte français tel qu'il était. Hein. Donc c'est pour ça que j'ai rajouté le commentaire. À mon sens, ça serait plutôt du A1B, F1B et F2B, puisque c'est émis par une machine. Voilà, donc effectivement, mais quand on regarde le texte est bien écrit FA1A, F1A et F2A. Donc peut-être que le législateur connaît pas toutes les subtilités, malgré que c'est lui qui les a quand même dites quand il a fait, quand il a donné les classes d'émission. Donc c'est juste un petit commentaire. Et donc la station répétitrice peut être aussi un relais. Ça, les relais, on a l'habitude de s'en servir. On utilise ça. Donc on a une fréquence d'entrée et on a une fréquence de sortie, soit sur la même bande. Et dans ce cas-là, c'est décalé selon la bande d'ailleurs. 600 kHz sur le 144 par exemple, ou alors on est dans le cas de transpondeur, c'est-à-dire que tout ce qui est reçu sur une fréquence est répété sur une autre bande, et inversement, c'est-à-dire que tout ce qui est sur l'autre bande est répété sur la première bande. Donc c'est vraiment un système à double sens. Alors qu'est-ce que j'ai encore à dire? Alors la station pourra être établie sur un autre site que celui de la station de l'utilisateur, qui est le titulaire donc d'un certificat de classe 1 ou 2. Oui, parce que pour les stations répétitrices, c'est comme pour les radioclubs, il y a un titulaire du certificat un responsable de la station plus exactement, et évidemment la station n'est pas obligatoirement à l'endroit où habite le titulaire de le responsable technique, ce qui me semble assez évident. Alors cette station répétitrice ne doit pas être installée pour un usage personnel ou un groupe restreint. Donc interdit de mettre des mots de passe, ça c'est classique. Tout au moins en France c'est interdit, mais il existe des groupes restreints dans d'autres pays étrangers. Hein. Je tiens à le préciser quand même. Elle ne doit transmettre que des informations conformes à la réglementation, ça me semble évident. Et en particulier, elle doit donner son indicatif, des données relatives à sa position, à son fonctionnement et aux conditions locales intervenant sur la condition des propagations radioélectriques. Un dispositif d'arrêt d'urgence doit être prévu toujours. Oui, donc F8 KHA qui nous dit que le radioclub d'Erki dans le 22 donc, et le responsable du club habite le 76. Encore heureux qu'on n'ait pas obligé d'habiter dans le radioclub ici. Inversement, transformer le QRA en radio club, je pense qu'il y a certaines YL qui feraient un peu la tête. Voilà. concernant, là, on arrive dans les questions tordues, et en particulier une qui revient régulièrement, qui est la fameuse conformité aux exigences essentielles. Alors ça, c'est un exercice de diction très très bon à faire. Si vous arrivez à dire cette phrase 10 fois sans bafouiller, vous avez gagné. Hein, conformité aux exigences essentielles. et donc c'est le code des postes et communications électroniques, le CPCE. Je vais appeler comme ça maintenant parce que sinon c'est trop long à dire. Donc le CPCE impose que les équipements radioélectriques, donc c'est pas spécialement les équipements de radioamateurs, hein, c'est tous les équipements radioélectriques. Donc par exemple, typiquement la télévision, les téléviseurs en vente dans tous les magasins. Donc les équipements radioélectriques doivent faire l'objet d'une évaluation de leur conformité aux exigences essentielles. Alors c'est quoi cette exigence essentielle? C'est par rapport à tout ce qui est compatibilité électromagnétique. Et donc en fait, il doit y avoir des tests pour montrer que le matériel n'est pas trop sensible, pour appeler ça comme ça, aux perturbations radioélectriques. En clair, vous pouvez faire marcher une mobilette à côté du téléviseur et pour autant vous verrez pas des tas de plein de neige sur le téléviseur. Ça se voit de moins en moins, ça quand même, hein. Les équipements deviennent de plus en plus durs vis-à-vis de tous ces problèmes de compatibilité électromagnétique. Et donc pour montrer que le matériel est conforme, donc il y a des tas de critères, hein, il y a des superbes textes qui sont sortis, en particulier des textes européens. Il y a une directive européenne qui est relativement récente, qui est la 2408 CE, qui est appelée directive CEM, et qui donne donc des recommandations sur les limites de ces fameuses exigences essentielles. Et donc le matériel, quand il est conforme, eh bien il a un logo CE, c'est le fameux logo CE qu'on voit un peu partout sur le matériel radioélectrique, et pas spécialement d'ailleurs radioélectrique. Oui, le CPL effectivement a été vérifié par l'ARCEP. Normalement, il est homologué CE. Donc, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne perturbe pas. Ça veut dire qu'il perturbe, mais le moins possible. Alors, tout c'est de savoir définir ce que veut dire perturber le moins possible. Voilà. Tout ce qu'on peut dire. Ce fameux logo CE apparaît sur tous les matériels. Donc cette exigence ne s'applique pas aux équipements radioélectriques utilisés par les radioamateurs non disponibles dans le commerce. Donc ça, c'est quelque chose qui a été rajouté dans le texte de loi qui permet le matériel créé par les radioamateurs eux-mêmes est considéré comme homologué d'office, puisque normalement on est censé être conforme aux exigences essentielles, puisqu'on sait ce qu'on fait en toute théorie, donc on devrait normalement ne pas avoir de problème, dès qu'on modifie du matériel, si le matériel est modifié par une personne non radioamateur, le matériel de ce fait perd sa conformité. Alors que lorsque les radioamateurs modifient leur équipement, le matériel est réputé être conforme. Enfin, dernier point. Alors ça, la conformité aux exigences essentielles, ça c'est quelque chose qui est relativement courant comme question. Alors la formulation est toujours un petit peu très très bizarre dans les questions, mais bon, une fois qu'on a compris ce dont on parle quand on parle de conformité aux exigences essentielles, ça va beaucoup mieux déjà. En fait, c'est que tout doit. Alors non, il ne faut pas éviter de créer son matériel soi-même, au contraire. Si on passe notre examen de radio amateur, c'est justement pour créer son matériel soi-même. Puisque si on n'est pas radio amateur, on n'est pas censé faire quelque chose conforme aux exigences essentielles. Donc si vous passez votre licence, c'est justement, c'est pas, enfin, à mon sens, c'est pas juste avec le fait d'avoir le diplôme en poche qui permet de faire du matériel conforme, mais après c'est l'habitude et le fait de travailler sur du matériel et avec des instruments. Donc au contraire, il faut encourager à créer son propre matériel, d'autant plus qu'on n'a pas besoin de le faire passer par un laboratoire qui vérifie et qui certifie donc la conformité du matériel. Dernière chose, les schémas des réalisations personnelles sont fournis uniquement à la demande de l'ARCEP. C'est-à-dire qu'auparavant, toutes les modifications de schéma devaient être signalées à l'administration de tutelle. Depuis 1997, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, le matériel est réputé être conforme s'il a été modifié ou créé par les radioamateurs. Et c'est juste à la demande de l'ARCEP que ce sont les schémas qui seront demandés. Les schémas et pas les tests qui auraient pu être faits dans un laboratoire, voir si c'est conforme ou pas au texte. Hein, on ne présente que les schémas et pas autre chose. Et ça c'est important, parce que souvent avec le schéma, ça ne préjuge en rien la qualité d'un appareil. Le schéma, ça donne une idée, mais ça ne préjuge pas de la conformité globale du matériel. Alors, aucune déclaration n'est à établir lors de l'acquisition ou de la cession de matériel. Ça c'est une question aussi qui n'est pas posée à l'examen, mais pour lesquelles les gens se posent. Il n'y a pas de personne n'est à prévenir en cas d'acquisition ou de cession de matériel. Radio amateur. Parce que dans le code pénal, il est prévu que la détention d'appareils permettant l'analyse du spectre radioélectrique ou son exploration manuelle ou automatique en vue de la réception et de l'écoute des fréquences n'appartenant pas aux bandes de fréquences attribuées au service de radiodiffusion ou au service de radioamateur est soumise à autorisation du Premier ministre. En clair, ce sont les scanners. La possession d'un scanner, donc c'est typiquement ça correspond à la définition, est soumise à autorisation du Premier ministre. Alors voilà, où en est la loi sur les scanners? Alors la loi sur les scanners, justement, on en est là. Et la détention de tels appareils est toujours soumise à autorisation du Premier ministre. Par contre, la vente, elle, est libre. Donc, comme d'habitude, c'est un peu n'importe quoi. On a le droit d'en vendre, le droit d'en acheter, le droit de sortir sa carte bleue, mais on n'a pas le droit de s'en servir. Enfin, tout au moins, on a le droit de s'en servir, mais pour cela, il faut demander l'autorisation du Premier ministre. Alors, je sais qu'il y en a des OM qui ont été à la gendarmerie faire leur déclaration et les gendarmes n'ont pas su quel imprimé sortir. Donc, et je sais même pas s'il en existe. Donc voilà où nous en sommes. Donc c'est la plus grande hypocrisie comme d'habitude. Eh ouais, il faut faire marcher le commerce, c'est vrai, malheureusement. Mais bon, alors c'est d'autant plus ridicule que la plupart des des communications maintenant sont cryptées, et donc avec un simple scanner, eh ben, on peut strictement rien faire, à part capter les pompiers ou les ambulances, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Tout ce qui concerne la police proprement dite, ils utilisent un système crypté qui est absolument impossible de pirater. Donc comme ça, voilà. Important, ça c'est une question aussi relativement récurrente, les installations de radioamateurs, comme tous les réseaux indépendants définis au L33.3, ne doivent pas être connectés à un réseau ouvert au public. Alors les pompiers plus pour longtemps, oui j'ai vu ça aussi, les pompiers, et nous avons équipé aussi la Croix-Blanche ici récemment, puisqu'on a une association Croix-Blanche sur Neuilly-sur-Marne, et eux aussi vont passer en crypté. Donc bientôt les scanners n'auront absolument, il n'y aura plus rien quoi. Il n'y aura plus rien à part peut-être quelques mais Ecolink. Alors pour voilà, c'est une bonne question. Ecolink. Ecolink n'est pas un passe par Internet, c'est bien sûr. Mais pour avoir accès à Ecolink, il faut avoir un indicatif. Et ça, pour avoir son mot de passe pour rentrer sur Ecolink, si vous n'avez pas d'indicatif, vous ne pouvez pas y rentrer. Donc, il n'y a pas de souci. Et si vous utilisez Ecolink depuis une station 144 pour rentrer dans un pad, vous pouvez tout à fait utiliser votre indicatif F0. Il n'y a aucun problème. Et même si on vous écoute à l'autre bout du monde et qu'à l'autre bout du monde, le link se fait sur 432. On revient sur les... vous êtes réputé émettre sur le 144 et après ce qui se passe derrière, c'est pas votre souci. En tout cas, Ecolink ne peut pas être considéré comme un réseau ouvert au public, même s'il utilise Internet, parce que bien c'est pas un réseau ouvert au public, il faut avoir son indicatif. Alors, on ne doit pas être connecté à Internet, c'est vrai, mais en fait, j'aurais dû... ce que j'ai écrit, c'est « ne doit pas être connecté à un réseau ouvert au public ». Internet est effectivement un réseau ouvert au public, mais on peut aussi très bien fermer le réseau. Typiquement, TeamSpeak, si on voulait le fermer, on vous demanderait un mot de passe. Et dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le réseau est ouvert au public. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas venir dans ce cas-là. Dans ce cas-là, c'est nous, le Radio Club, qui déterminons qui a accès ou pas. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Là, on parle bien des réseaux ouverts au public. Internet est un réseau ouvert, mais il peut aussi très bien, on peut aussi le fermer. Hein. Quand on parle de réseau ouvert au public, c'est vraiment le réseau Internet dans toute sa splendeur. Par exemple, si je mettais en communication, par exemple, avec Skype, ça c'est absolument interdit, parce que Skype, n'importe qui peut l'utiliser. Voilà. Donc tout ce qu'on peut dire sur ces installations. Donc faire attention avec cette notion de ouvert au public, parce que c'est typiquement Internet, on se pose à chaque fois la question, mais le texte ne parle pas d'Internet, il parle de réseau ouvert au public point barre. Donc par exemple, on ne peut pas non plus connecter à un réseau téléphonique la station 144. Ça c'est absolument interdit aussi. Hein, ce qu'on appelle le phone patch aux États-Unis. Le phone patch aux États-Unis est toléré. En France, il est interdit. Au moins qu'on soit clair avec ça. Pour une fois qu'il y a des textes français qui sont clairs, on en profite. Hein. C'est pas toujours le cas, on va le voir. Alors, une station peut être manœuvrée par le titulaire, évidemment, de l'autorisation d'émettre, c'est tellement mieux. Ou un opérateur occasionnel, ça c'est quand vous avez un copain. Alors, si j'entends votre 144, mais on a le droit qu'elle y ait un pass. Alors ça, j'ai pas compris la question. En ce moment, si je vous écoute, j'entends votre 144, mais on a le droit, car il y a un passeur. Ça, je ne comprends pas le terme de la question. Voilà. Alors, je m'explique. Faut être un peu plus rapide sur le clavier, là. Je vais laisser un blanc sur le 144, F6GPX, Opéra F6KGL. Ouais, 73, et ben, et puis bienvenue aussi sur internet, je vois. Et puis et ben, ok, hein, je vous repasse le micro, F6GPX, Opéra F6KGL. Ouais, ok, F8KHA, oui, ben j'ai compris. Donc, ok, pour bah, sur 144, ça marche, bah, c'est impeccable, donc. Alors, pour. Je vous signale que j'ai en fait deux micros, donc en fait je ne passe pas par je passe pas par internet puisque j'ai deux micros, donc je passe d'un côté ou de l'autre. Ouais, ok, bah écoutez, nous on est en train de faire un cours là sur le et sur 144 et sur internet, hein. Et donc Si vous êtes intéressé, on fait ce cours-là tous les vendredis soirs. Voilà, donc je vais continuer le cours et si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi vous connecter via TeamSpeak. Pour plus d'informations, vous allez voir le site du Radio Club qui est donc f5kff.f6kgl.neuf.fr et vous avez toutes les informations sur tout ça. Voilà, je vous repasse le micro F6GPX opérant F6KGL. Alors là, la retransmission d'un QSO via le net, normalement, ne devrait pas être autorisée, comme en ce moment sur le 144, mais le problème, c'est que avoir les deux stations en même temps, c'est pas évident. Enfin, c'est les joies un petit peu de la radio. C'est un très mauvais exemple, là, j'avoue, pour la réglementation. Ok, F0EQG. F6Golf, Papa X-Ray, F6GPX, prénom Jean-Luc, et le Radio Club, ici, c'est F6KGL, Kilo Golf Lima, à Neuilly-sur-Marne. Voilà, pour toutes les infos. Et pour terminer les infos aussi, le cours F4 commencera vraisemblablement en décembre, vers le début décembre. J'ai pas la date en tête, mais si vous êtes intéressé, même fréquence, même heure et même jour, et tous les vendredis soirs on fait un cours. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez nous rejoindre sur 144 ou sur le web. Voilà. Je vous laisse le je Je vous repasse le micro une dernière fois et on continue le cours. F6 GPX opérant F6 KGL. Ouais, ouais, ok, bon bah F6 GPX Golf Papa X-Ray. Qui reprend, qui opère donc le Radio Club de Neuilly-sur-Marne, Foxtrot 6 Kilo Golf Lima. Et donc on continue. Alors effectivement, je vois aussi les messages qui défilent là. Donc en décembre, effectivement, ça va commencer à remuer dans les ménages. Et j'espère que ça va pas trop décourager. Qu'il va falloir effectivement sortir les calculettes. Alors profitez-en encore, quoique maintenant les affaires scolaires sont emballées dans les hypermarchés, mais commencez à regarder les calculettes. Alors je répète, pour les calculettes c'est peut-être bête, mais ne prenez pas des trucs trop compliqués, et surtout ne prenez pas des calculettes programmables. C'est-à-dire qu'en règle générale, ce que je recommande, c'est des calculettes pour les sixièmes. Hein. Ça suffit largement. C'est pas la peine d'avoir des calculettes graphiques, etc., etc. Il y a des tas de fonctions dont on ne se sert pas. Et un simple ordinateur tout vieux, le problème, c'est que l'ordinateur tout vieux, on peut pas l'emmener le jour de l'examen. Ça marche pas. L'examinatrice, elle va vous regarder avec des gros yeux. Donc utilisez la bonne vieille calculatrice. En règle générale, je vous dis, tout ce qui concerne le niveau 6e convient en règle générale très bien. Vérifiez quand même qu'elle supporte la notation scientifique. Ouais, bah, elle est pas très coopérante, non. L'examinatrice, au moins à Villejuif, elle est bien gentille, mais faut pas non plus trop lent. Ah bah oui, c'est un homme, alors effectivement c'est pas évident. Mais nous on a la chance d'avoir une gentille antillaise, mais bon, le boulier c'est pas pratique, hein. Jean-Louis, hein, c'est pas pratique le boulier, hein. Bon, allez, on continue la réglementation avec le chapitre 4.3. Donc on peut la station peut être manœuvrée par le titulaire de l'indicatif, évidemment, mais aussi par un opérateur secondaire. Excusez-moi, le terme c'est opérateur occasionnel. Opérateur secondaire n'existe plus. Ça existait, ça n'existe plus. J'ai encore ma langue qui a fourché, faut que je me remette à jour. C'est un truc qui n'existe plus depuis 97. Je commence à dater. Donc c'est l'opérateur occasionnel qui est donc un copain qui a aussi une licence, évidemment, une autorisation d'émettre, et qui utilise la station de son copain à titre exceptionnel. L'opérateur occasionnel ne peut pas contacter sa propre station. Je vois pas trop comment il pourrait faire, le pauvre, mais enfin bon, imaginons. Et doit communiquer son indicatif après celui de la station utilisée. Exemple, F5 ABC opéré par F6 DEF. Dans le cadre du Radio Club, je devrais dire F6 KGL opéré par F6 GPX, mais vous remarquez que systématiquement je dis l'inverse. Ça, on me l'a déjà fait remarquer, mais ça, les habitudes, c'est très dur à oublier. En morse, on doit donc dire F5 ABC barre de fraction F5DEF. C'est-à-dire que F5DEF, c'est la station qui opère, et elle opère la station F5ABC, qui est le copain qui lui a prêté sa station. Évidemment, concernant le carnet de trafic, ce contact, donc F5DEF, doit, premièrement, F5ABC doit marquer ce contact sur son carnet de trafic, même si c'est lui, même si c'est pas lui qui a fait le contact, mais c'est sa station qui a émis, donc c'est le principal. De même, F5DEF devra inscrire sur son propre carnet de trafic le contact qu'il a fait via la station F5ABC. Il peut y avoir des occasionnels en mobile, tout à fait. Hein, pourquoi pas, il peut y avoir des occasionnels en mobile. Il y a aucune, on peut mixer tout ça, hein, il y a sans problème. Et les installations de Radio Club sont une forme un peu spéciale d'opérateur occasionnel, puisque normalement un Radio Club c'est une personne morale. Personne morale, jusqu'à présent, elle n'a pas la parole encore. Ça se saurait. Elle ne peut pas tenir un micro. Et donc, automatiquement, il ne peut y avoir que des opérateurs occasionnels sur un radioclub. Donc, on doit utiliser... Alors, premièrement, on utilise la station du radioclub sur les fréquences et avec la puissance qui nous est propre à l'autorisation d'émettre qu'on a. Hein. C'est-à-dire que les F0, quand ils viennent au radioclub, ils émettent sur le 144 avec 10 watts. Il n'est pas question qu'ils soient, parce qu'ils utilisent la station du radioclub, un F0 ne peut pas aller sur des cas métriques. Et donc, les opérateurs doivent se signaler de la même manière que pour les opérateurs occasionnels, c'est-à-dire que je dois dire F6KGL opéré par F6GPX. Alors il y en a qui font de l'humour et qui disent ah bon. Et même chose pour quand on est en C double, on donne déjà l'indicatif de la station que l'on utilise, la barre de fraction est suivie de son propre indicatif. Eh oui, bah oui, il y en a beaucoup qui apparemment sont tentés. Les F0 sont tentés de venir au Radio Club pour trafiquer sur des cas métriques, mais c'est pas bien. Alors un Radio Club ne peut être qu'en fixe, non. Un Radio Club, c'est comme toutes les autres stations, ils peuvent être en mobile, en maritime mobile, ils peuvent faire typiquement ce qu'ils veulent. Un Radio Club, en fait, c'est une personne morale, donc c'est tout. Hein. C'est un cas bien particulier, et comme c'est une personne morale, il doit y avoir un responsable technique. Le responsable technique, c'est la personne physique qui est donc responsable du Radio Club. Et cette personne physique peut n'avoir aucune relation avec le Radio Club. C'est-à-dire n'est pas obligatoirement le président du Radio Club, en clair. Le président du Radio Club, c'est l'association vis-à-vis de la préfecture, en particulier si c'est une association de 1901. Et le président d'un Radio Club n'est pas obligatoirement quelqu'un avec un indicatif, ou tout au moins avec une classe d'opérateurs qui va bien, puisque un radio club, le responsable technique d'un radio club doit être un radioamateur de classe 1, c'est-à-dire un F5, un F6, etc. Alors, comment annoncer dans un radio club avec un occasionnel en mobile, par exemple? Eh bien, on dirait Foxtrot. Alors, puisque je suis, imaginons que nous partions sur un bateau avec l'équipe du Radio Club, eh bien, on dirait F6KGL Maritime Mobile opéré par F6GPX. Voilà. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais enfin bon, pourquoi pas. Donc, on peut être. Alors, un Radio Club, automatiquement, ça doit être suivi par par l'indicatif de la personne qui opère. Alors c'est vrai que on entend relativement peu les opérateurs des radioclubs. Même dans les contests, par exemple, on entend l'indicatif du radioclub, mais assez rarement l'indicatif de l'opérateur. C'est bien dommage, mais enfin bon. Mais en tout état de cause, systématiquement, avec l'indicatif d'un radioclub, on doit donner aussi l'opérateur, l'indicatif de l'opérateur. Et donc, le responsable technique du radioclub est obligatoirement un opérateur de classe 1. Donc, quelqu'un qui connaît le morse. Même le radioclub n'a qu'une station 144. Ça, c'est pas... on s'en fout complètement. Qui est mobile ? Bah, c'est le radioclub qui est mobile. C'est le radioclub. Hein, si la station utilisée, c'est la station du radioclub, et qu'elle est sur un bateau, c'est la station du radioclub qui est mobile. Enfin, qui est maritime mobile exactement, si c'est le cas du bateau. Et si c'est dans la voiture, eh bien, c'est le radioclub qui est mobile. Et c'est pas l'opérateur occasionnel. L'opérateur occasionnel, il opère une station mobile. Voilà. C'est un peu compliqué, mais bon, c'est une fois qu'on a compris les différents termes et qu'on mélange tout ça, bah ça après ça va mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire encore ? Alors évidemment, le journal de trafic, encore une fois, indique les indicatifs des opérateurs et leur période d'utilisation. Et ce qui est important, c'est que le journal de trafic est contresigné par le responsable du radioclub. Alors, l'utilisateur de la station du radioclub, donc par exemple moi, F6GPX, je dois reporter le contact que je fais au radioclub sur mon propre carnet de trafic, comme dans le cas d'une station occasionnelle. Et donc, en italique, j'ai rajouté que, pour mémoire, la notion d'opérateur supplémentaire n'existait plus. Alors, ces opérateurs supplémentaires, c'était justement pour éviter de préciser son indicatif. C'est-à-dire qu'on disait F6KGL.bar. Alors, la question est un peu longue à poser. J'attends un petit peu, je continue. On reviendra dessus après. Posez-la-moi. Je vous laisse... manipuler le clavier. Les sanctions. Chapitre 4, je vais faire un petit blanc sur 144 F6GPX opérant F6KGL. Donc F6KGL opéré par F6GPX, quand même, je vais le dire dans le bon sens pour une fois. Alors, le 4.4. Les sanctions. Alors, les sanctions, premièrement, il n'y a plus d'infraction à la réglementation. Jusqu'en 2000, il y avait toute une flopée d'infractions, utilisation d'un indicatif frauduleux, enfin, je ne sais plus ce qu'il y avait. Il y avait grosso modo quatre infractions, et dans les infractions il y avait en face des sanctions, et les sanctions ça pouvait aller jusqu'à la révocation de l'indicatif, ça allait du rappel à l'ordre à la révocation de l'indicatif. Ces infractions jusqu'à présent ne peuvent plus exister, puisque ces infractions étaient données par l'ARCEP, enfin l'ART à l'époque, laquelle ART a été reconnue incompétente pour juger, puisque la seule autorité qui a le droit de juger, c'est un juge, justement. Alors, la question, ça sent le chaud, non ? Non ? Bon. Je croyais qu'il y en a qui bricolaient. Non, bon. Alors, bon, c'est le rodage, alors c'est bon. Le carnet de trafic doit être contresigné. Ce qui veut dire que la personne morale du radioclub doit être présente. Non, elle n'est pas présente systématiquement. Il est contresigné dans le sens où quand... c'est le câble ? Le câble, il chauffe ? Attends, on va réduire un peu la puissance alors. Donc on a. Ouais, ouais. Bon, d'accord. Bon, j'ai réduit là. Bon, donc on a réduit un peu la puissance sur 144. donc le responsable technique de la station doit signer, en fait, nous ce que l'on fait, on signe une fois que la page complète est remplie. Et donc on la signe pour montrer que on a pour montrer qu'on a bien qu'on a bien vérifié que tout se passait bien. Peut-il y avoir une autre personne dans la rue utiliser tout de même les fonctions de responsable technique? Alors non, le responsable technique, il vise le carnet de trafic, la page une fois qu'elle est remplie, juste pour montrer qu'il a bien qu'il a bien pris en compte que des gens avaient utilisé la station. Hein. Mais et puis j'ai jamais vu quelqu'un qui vérifiait, du moins une administration qui vérifiait que c'était bien contresigné. Alors, comment Antoine peut-il signer hein? Alors, donc pour aller voir pour la question de F8KHA, en clair, nous on ne contresigne le carnet de trafic que grosso modo une fois par mois. Alors, on contresigne, ça veut dire que je mets mon gris-gris en bas de la page, hein, c'est tout, pour montrer que je l'ai, que j'ai bien vu. Mais c'est tout ce que l'on fait. Hein. Et le texte n'en dit pas plus, ne dit pas que le responsable technique de la station doit être systématiquement là quand la station est utilisée. Et heureusement. Il a juste dit qu'on doit contresigner le carnet de trafic, point barre. Donc je le contresigne, c'est-à-dire que je mets mon gris-gris en bas de chaque page une fois que la page est faite. Ça veut dire qu'il était présent. Ça veut dire clairement qu'il y a des gens qui viennent trafiquer la semaine ici, qui utilisent l'indicatif du Radio Club, et que. Et d'ailleurs, je crois même qu'il y a 2-3 pages que j'ai pas signées encore. Quand je dis que je fais ça une fois par mois, ça va être encore. Je dois même pas le faire une fois par mois. C'est quand je pense à regarder sur le carnet de trafic que je mets mon gris-gris dessus. C'est tout. Donc en tout cas, je le contresigne. Je le contresigne, c'est vrai. Alors par contre, je vérifie pas que tout le monde inscrit bien utilise correctement le carnet de trafic. Ça, comme au Radio Club, on n'est que des gens sérieux ici, donc normalement, ça devrait pas poser de problème. Voilà. Donc, ce que l'on peut dire là-dessus. Les sanctions. Il y en a une. Alors, ça concerne les fonctionnaires de chargés de la, exactement les fonctionnaires de l'ANFR qui ont un pouvoir, je dirais, vis-à-vis du code de procédure pénale, puisqu'ils ont ce sont des experts, donc ils ont droit, enfin ils ont certaines prérogatives. Et donc alors le texte, donc ça c'est l'article L40 du CPCE qui dit que outre les officiers et agents de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, donc ça c'est les policiers lambda, les fonctionnaires et agents de l'administration des télécommunications peuvent rechercher et constater par procès-verbal les infractions. Alors, comment contresigner le carnet de trafic informatisé? Ah bah alors, attends, il m'a tout cassé. Bah si. Ah, il était desserré. Alors, effectivement, le problème, comment contresigner un carnet de trafic informatisé, ça je sais pas. Bonne question. Bonne question, on s'est pas posé la question parce qu'il n'est pas informatisé ici, le carnet de trafic. On a encore le bon vieux trafic à la main, compte tenu qu'il y a des OM qui viennent ici qui savent pas servir d'un ordinateur, enfin, ou tout au moins très, très mal. Donc pour éviter tous les problèmes, on fait ça encore à la main, à la mano, à la papa, je dirais. Et donc on ne s'est pas posé la question. Mais c'est une bonne question. Et je ne sais pas y répondre. Comment contresigner un carnet de trafic informatisé? Alors là, je ne sais pas. Donc là, je ne peux pas répondre. Alors, pour revenir à cet article L40 du CPCE, alors, en clair, parce que maintenant, c'est mieux pour les bugs, à moins que le crayon ne soit en panne. Oui, mais on a tout un stock de crayons ici, donc on est très bien là, on est très bien outillé de ce côté-là. On a un OM qui nous pourvoit en crayons publicitaires qui marche très bien. Donc voilà. donc pour revenir à nos agents habilités de l'administration des télécommunications, et en particulier ce sont ceux de l'ANFR, pour ne pas les nommer. Ils disposent d'un pouvoir de police judiciaire en fonction du L40 du CPCE, c'est ce qu'on vient de voir, et ils ne peuvent intervenir seuls que dans des lieux à usage professionnel entre 8h et 20h. Donc ça, c'est dans les locaux à usage professionnel, donc en clair, éventuellement dans les salles de serveurs ou ce genre de choses, ou dans les... Oui, à part ça, je vois pas trop ce qu'on peut trouver au point de vue radio pur, et pendant les heures d'ouverture lorsque le local est ouvert au public. Alors ça, je vois pas trop concrètement ce que ça veut dire. En pratique, en cas d'intervention dans un lieu à usage privé. Alors, lieu à usage privé, c'est typiquement l'habitation, chez vous, ou le local d'un radioclub. Le local de radioclub, jusqu'à présent, c'est un lieu privé, c'est pas un lieu public, même si tout le monde peut y entrer, et si tout le monde a la clé, pour autant, c'est un lieu privé. Les agents de l'administration chargée des télécommunications internes interviennent en tant qu'assistant technique d'un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire. Donc il ne peut donc on ne peut avoir la visite d'un fonctionnaire de l'ANFR que avec un officier de police judiciaire, donc c'est quelqu'un qui a sermenté et qui a une commission rogatoire. Donc il faut qu'il y ait un juge qui délivre une commission rogatoire, ça se fait pas comme ça. Le radioclub de Cholet est fermé au public, le nôtre aussi il est fermé au public, mais il y a pas mal de gens qui ont la clé. Donc en règle générale il est fermé quand même, hein. Quand il n'y a personne il est fermé. Alors sinon pour revenir au code au CPCE, et ça c'est important, Le CPCE prévoit que est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de perturber en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique ou d'utiliser une fréquence en dehors des conditions prévues à l'article L33.3. Ça veut dire que, en clair, si vous émettez avec votre licence F0 en décamétrique, vous risquez un emprisonnement de 6 mois et une amende de 30 000 euros. Quand même. Hein? Donc il n'y a pas de sanction. Alors je vous rassure quand même, c'est que pour faire marcher ce L39.1, il faut qu'il y ait eu une plainte et que ça passe devant un tribunal. Quand même. Donc c'est pas le simple. C'est pas parce que vous allez utiliser le matériel du radioclub en tant que F0 pour mettre en décamétrique que pour autant vous ferez 6 mois de tôle, hein, je vous rassure. Il faut quand même, à mon avis, faire autre chose. En cas de récidive, la peine est doublée. C'est sympa. Et le tribunal peut prononcer la confiscation du matériel ou ordonner sa destruction. Et en fait, le 39.8 du CPCE précise que toute personne qui effectue des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'État ou à une autre station autorisée est punie d'un an d'emprisonnement. Il n'y a pas d'amende, mais c'est un an d'emprisonnement. Vous utilisez mon indicatif, je peux porter plainte, et si le juge pense que c'est nécessaire et qu'on vous a effectivement pris en flagrant délit, on peut vous punir d'un an d'emprisonnement. Je ne crois pas qu'on en arrivera là. Enfin, tout moi, j'espère pas. Voilà. En cas de fraude à l'examen, ça c'est une question bête, bon, enfin bon, qui est posée à l'examen. Alors, est-ce qu'un radiomètre F0 émettant sur les bandes DK est donc reconnu comme pirate, risque les mêmes sanctions qu'un pirate non négativé? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, il risque la même chose. Il n'y a pas de... Le texte est clair, hein. Si vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit. Hein. Utiliser une fréquence en dehors des conditions prévues à l'article L33.3. Le L33.3, il ne dit pas que les F0 ont droit d'émettre sur des cas métriques. Donc, effectivement, c'est même pas drôle, bah non. Bon, enfin bon, je répète, pour en arriver là, à mon avis, faut vraiment faire d'autres conneries que ça. Hein. Enfin bon. Eh oui, il y en a qui veulent déjà piquer mon indicatif, c'est pas sympa ça. Je vais déposer des plaintes, d'autant plus que je vais garder ça. Je vais garder le message, ça va faire tout à fait une preuve lors du procès. Alors, en cas de fraude à l'examen, ça c'est une question qui a déjà été posée lors d'un examen, justement. En cas de fraude à l'examen, l'épreuve est annulée et le candidat ne peut se représenter avant un an. Alors, fraude à l'examen, ça veut dire, par exemple, utiliser une calculette programmable. C'est une fraude. Eh ouais. Hein? Ou avoir une anti-sèche. Bon, enfin bon, quand... Voilà. Enfin, l'anti-sèche, maintenant, bon, c'était de mon temps, c'est un vieux truc. Maintenant, on a des calculettes programmables, c'est plus facile. Ou des stylos, ou alors le baladeur MP3 avec les formules qui vont bien dans dans l'oreillette. Ah ben non, on n'a pas le droit aux antisèches non plus, hein. Non, 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 non. Ça marche pas les antisèches. En cas de plainte pour brouillage, alors ça c'est de l'italique parce que je n'ai vu aucune question dessus. Mais ça, c'est... On a malheureusement quelquefois des voisins quelque peu irascibles. Et donc, en cas de plainte pour brouillage, en particulier c'est la télévision en fait, hein, l'ANFR peut intervenir en tant qu'expert pour déterminer si les torts viennent du radioamateur, donc savoir si c'est du brouillage, ou de l'installation de la personne perturbée. Et donc, dans ce cas-là, c'est de la non-conformité. En clair, c'est que le câble coaxial qui descend à la télévision est pourri. Ou l'antenne est inexistante, voire complètement azimutée à l'opposé du relais de télévision. Ça, c'est du classique. Et l'intervention, donc là, donc quand on a des problèmes avec le voisinage, on demande l'intervention de la NFR, qui se passe généralement très bien, tout au moins quand on est de bonne foi. Et la NFR intervient et détermine les causes du brouillage, donc savoir si c'est de votre station ou si c'est de votre voisin qui a une installation pourrie et une télévision pourrie. Alors effectivement, c'est la NFR, c'est pas TDF. Hein. Oui. Puis moi, j'ai déjà eu moi dans. Puisque F6 KGL était avant surbondi et on avait eu des problèmes avec des voisins. Ça n'a jamais été jusqu'à la NFR, mais on était prêt à y aller. Et je sais qu'il y a un OM au Radio Club qui a des soucis avec ses voisins. Je lui ai conseillé en dernier ressort de demander à la NFR, qui intervient toujours sans problème en région parisienne et qui, ma foi, fait un boulot tout à fait honnête. Et donc, bon. Voilà. Alors, en règle générale, la NFR ne facture pas l'intervention, sauf quand elle voit que, quand il y a un des interlocuteurs qui est franchement de mauvaise foi. Et dans ce cas-là, ça coûte 450 euros. Et les 450 euros sont à la charge de la personne qui est responsable des désordres. Donc, en règle générale, c'est pas trop les radioamateurs, sauf à avoir une station complètement pourrie. Mais bon, tant qu'à faire, si on demande l'intervention de la NFR, on essaye de se mettre un minimum en conformité. Mais bon, en règle générale, c'est déjà... Enfin, pour des gens normalement... c'est fait depuis le départ. Pour la petite histoire, j'avais eu une histoire avec un voisin il y a de ça quelques temps qui s'était plaint dès l'érection du pylône sans qu'il y ait encore une antenne dessus et qui m'avait dit qu'il ne recevait plus la télévision parce que j'avais mis une peinture spéciale sur le pylône. je savais pas que le minium ça permettait à bloquer les ondes, mais bon, pourquoi pas. Comme quoi, on voit un peu de tout et on entend un peu tout et n'importe quoi. Chapitre 5, examen. Et on va s'arrêter là pour ce soir, parce que comme... ensuite, on passera aux indicatifs, formation des indicatifs, qu'on verra la semaine prochaine, il y a encore pas mal de choses. Oui, moi aussi, oui, juste le pylône sans l'antenne, moi aussi, j'avais pas encore monté mon antenne, puisque je comptais le faire 15 jours ou 3 semaines après, j'avais juste 1000 pylônes et je l'avais pas au minimum, et déjà, le voisin recevait plus la télé. Donc, ça commençait bien, déjà. Bon, heureusement, il a déménagé, c'était très bien. L'examen, il y a des questions à l'examen sur l'examen. Ça semble idiot, mais il y en a. Alors, premièrement, il n'y a plus d'âge minimum pour passer l'examen. Auparavant, c'était 13 ans. Je veux pas dire de conneries, mais c'était 13 ans. Maintenant, il n'y a plus d'âge minimum. De toute façon, au moins de 13 ans, je sens quand même assez mal. Tout au moins pour la réglementation encore, je veux bien, la partie technique, ça me semble un peu plus difficile. L'examen de Morse, je répète, c'est un texte de 36 groupes de 5 lettres, puis un texte en clair de 3 minutes, plus ou moins 5%, et la vitesse est 12 minutes. La question généralement, c'est sur la durée du texte en clair. Télé ou téléphone? Pour moi c'était la télévision, hein. C'était pas télévision, c'était pas le téléphone, hein. Il ne recevait pas, il recevait plus la télévision. Parce que j'avais mis une peinture spéciale sur mon pylône. Peinture qui devait capturer, je suppose, les ondes. Et empêcher que le voisinage puisse recevoir quelque chose. Le taux d'incapacité permanent des candidats. Question qui existe souvent. Ah ouais, d'accord, les deux pour F0 et EGJ. Ouais, téléphone et télé, putain. Un radioamateur, ça fait des dégâts quand même, hein. Alors, si le candidat a un taux d'incapacité permanent supérieur à 70%, je rappelle... ça s'appelle un IPP, hein. Pour avoir un IPP supérieur à 70%, faut y aller, en règle générale, je vous signale que les aveugles, par exemple, n'ont pas l'IPP de 70%. Tout au moins les aveugles, les très malvoyants, ceux qui voient encore un petit peu le jour. Ceux qui sont au Père Lachaise, généralement, ils ont l'IPP à 70%, mais presque, on ne sait pas, presque 100%, ouais. Ils ont plus les sangs gratuits, c'est con. donc, l'IPP 70%, faut vraiment y aller, hein. Faut être très atteint. Et ce que me disait justement Guy, c'est qu'il y avait des au niveau Guy qui est un radio amateur non voyant qu'on connaît bien, qui vient souvent au Radio Club, et il y a beaucoup de gens qui sont pas non voyants mais malvoyants et très malvoyants, qui n'ont pas l'IPP de 70%. Donc ils sont absolument incapables de lire sur le Minitel la question qu'on leur pose, en clair. Et donc de ce fait, ils peuvent pas se faire aider, puisque dans la salle d'examen, il ne peut y avoir que le candidat, il ne peut y avoir personne d'autre. Donc ça, c'est quand même un petit problème qui et de plus, pour tous les handicapés sur chaise roulante, etc. Normalement, quand on a cet IPP de 70%, l'examen peut se faire à domicile. Mais le problème, quand on est en chaise roulante, quelquefois on n'a pas l'IPP de 70%. Donc voilà. Donc voilà. Donc pour l'IPP de 70%, donc premièrement, le temps est triplé. Alors, sauf en morse. Il n'y a pas de raison que la vitesse soit trois fois plus lente. Donc ça ne concerne que la réglementation et que la technique. C'est pas clairement dit dans le texte, mais bon, ça me semble. Je vois pas tellement comment on peut faire autrement. Et dans ce cas, l'épreuve peut se dérouler au domicile du candidat, à la demande du candidat évidemment. En cas d'échec à l'une des épreuves, le candidat doit attendre un mois avant de repasser l'examen. C'est une question aussi que j'ai vu poser. Le candidat conserve pendant un an le bénéfice de l'épreuve dans laquelle il a obtenu une note égale à 30 sur 60, donc avoir la moyenne. Les frais d'examen sont de 30 euros, j'ai jamais vu de question dessus, mais pourquoi pas. Bon, donc voilà, on va s'arrêter là pour ce soir. J'espère que maintenant nos problèmes de micro-coupure sont résolus et que, ma foi, on peut travailler un peu plus sereinement. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. À la semaine prochaine, même heure, même fréquence sur le 144 et même lieu.